soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arma que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
Bonsoir à tout le monde, vous êtes à l'écoute de Radio Diwa, peut-être en direct mais plus probablement en différé, et c'est l'émission Feu de tout bois du jeudi 23 octobre 2014. Alors ce soir il y a une situation un peu exceptionnelle sur la ville de Die, c'est que l'émetteur de Justin est totalement coupé. Donc il n'y a plus du tout de radio, aucune radio n'est diffusée sur la bande FM quand on écoute sa radio. Je vais vous faire écouter, hein, comme ça vous allez entendre. Hop, hein, je vais vous faire entendre après. Voilà, vous avez donc entendu qu'il n'y a rien sur la bande FM que des grésillements. Et donc, on ne peut pas vous parler en direct sur la bande FM, ce n'est pas possible. Mais malgré tout, bon, il est 19h59, hein, on commence un petit peu en retard, mais malgré tout, on va quand même faire une émission Feu de tout bois raccourcie, car on a des choses importantes à vous raconter sur différents sujets. Et on a d'ailleurs une invitée sympathique qui est venue nous rejoindre, qui est Séverine. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Bien contente de partager cette antenne avec toi.
Oui, de même.
Et donc, bon, est-ce que tu as envie qu'on commence directement avec ton sujet ou qu'on parle peut-être de deux, trois autres petites choses avant?
Bah ouais, vas-y. Lance deux, trois trucs, ça va nous mettre un petit peu.
On va se mettre un petit peu en jambes, exactement. Alors, eh bien, moi, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est la fête d'adieu aux tanneries à Dijon, qui a eu lieu le week-end dernier. Et les tanneries à Dijon, c'est quoi? Eh bien, c'est un très grand squat dans des hangars industriels qui abritaient d'anciennes tanneries. Donc, c'est en fait toute une zone industrielle désaffectée située à la périphérie de Dijon. Donc, quand on arrive à Dijon, c'est vraiment dès qu'on sort de l'autoroute... hop, on est obligé de passer par là pour aller au centre-ville. C'est donc vraiment plusieurs hectares de friches industrielles, dont une partie, pas mal de ces hangars désaffectés ont déjà été rasés, détruits, mais une petite partie résiste encore et toujours à l'envahisseur, et donc c'est plusieurs hangars qui sont squattés depuis 98 quand même, donc ça fait 16 ans maintenant que ce lieu est occupé. Il s'y est passé beaucoup, beaucoup de choses en 16 ans. Ça a été vraiment un foyer de luttes politiques, de rencontres, d'activités autonomes de toutes sortes et aussi de concerts. Parce qu'à Dijon, donc, il y a vraiment l'espace autogéré des tanneries, à savoir le lieu plutôt d'habitation et d'activités, on va dire, sociales, etc., d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a une salle de concert qui est gérée par un collectif qui s'appelle Maloka et qui organise beaucoup de concerts de musique plutôt punk, hardcore. Moi, je ne m'y connais pas trop dans ces musiques, mais en gros, de la musique indépendante, underground et plutôt assez bruyante avec beaucoup de cris, d'instruments de musique saturés, de choses comme ça. Bon, enfin, après, je pense qu'il y a différents groupes, hein, qui sont déjà passés par cette salle de concert, mais moi, c'est l'image que ça m'en donne. Voilà, par rapport à ce que j'ai déjà vu. Et donc, cette fête des tanneries, elle a rassemblé beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens, hein, qui ont participé à des événements de toutes sortes. Un motif pour lequel les tanneries a toujours été un lieu assez réputé, c'est pour tout ce qui concerne les luttes numériques, parce qu'il y avait vraiment des informaticiens complètement exalté et très, très assidu, qui habitait là-bas et qui hantait la cave des tanneries, qui était remplie d'ordinateurs. Et tous ces gens organisaient des serveurs indépendants, programmaient des choses pour du Linux, du Debian notamment. Enfin voilà, j'étais programmateur, quoi. Et c'est des gens qui étaient très impliqués dans, on va dire, toute la lutte du logiciel libre et de l'Internet indépendant. Voilà. Et il y a eu notamment des rencontres mondiales du logiciel libre à Dijon. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais je crois que c'était en 2009. Et il y a Lunard, un éminent activiste informatique qui était là pour cette fête des tanneries et qui a raconté toute son émotion, ses souvenirs de cet événement, donc qui était organisé plutôt du côté, enfin sur les lieux, sur les locaux de la fac de Dijon. Et comme lui et d'autres de ses camarades participaient aux rencontres, ils ont proposé de faire des activités le soir aux tanneries, des activités plutôt festives, plutôt des rencontres et tout. Et apparemment, les informaticiens qui se réunissaient là-bas ont été très enthousiastes et très contents de pouvoir aller se délasser le soir dans une ambiance détendue là-bas aux tanneries. Et ça a créé quelque chose d'assez chouette apparemment dans les liens entre ces personnes. Et de cette époque a été peint un graffiti qui est très réputé mondialement dans la communauté du libre. C'est apt.get.install.anarchisme. Alors toi, Séverine, tu connais un peu en informatique, est-ce que tu sais ce que ça signifie, cette ligne de commande?
Je sais que a2pt.get.install, c'est des lignes de commande qu'on tape quand on veut installer justement des choses sous Linux. Ligne de commande, parce que quand même maintenant sous Linux, il y a aussi pas mal de choses qui s'installent beaucoup plus facilement.
Par logiciel. Par interface graphique, comme on dit. Et oui, et en tout cas, c'est, disons que c'est en langage un peu, en langage informatique, ça veut dire faites la révolution en gros.
Voilà,
c'est ça que ça
installons l'anarchie.
Voilà, donc ça c'était assez rigolo. Je pourrais vous en parler pendant longtemps des tanneries, mais je ne sais pas si je vais, parce que ce manque de direct me démotive un petit peu, je dois bien l'avouer, même si je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent feu de tout bois en cliquant sur l'ordinateur et qui nous écoutent en différé, peut-être même des mois après, je ne sais pas. Mais bref, ça me donne moins envie de raconter plein de choses. Donc je ne vais pas en dire plus sur les tanneries en tant que telles, mais je peux vous parler quand même aussi d'un super chouette lieu qui est situé à côté du squat des tanneries. C'est le quartier des Lentillères à Dijon. Et en fait, dans le quartier des Lentillères, ce sont d'anciennes terres maraîchères, des très bonnes terres maraîchères. Donc, comme dans beaucoup de villes à Dijon, il y avait ce qu'on appelle une ceinture maraîchère autour de la ville. Puisqu'avant, quand il n'y avait pas le capitalisme mondialisé et des grands moyens de communication pour transporter toute la nourriture et des grands supermarchés, forcément les villes étaient quand même relativement autonomes d'un point de vue alimentaire. Et donc forcément, ils essayaient de cultiver la nourriture des villes autour des villes. Enfin, ça semble logique géographiquement. Et donc dans beaucoup de villes, il y avait ce qu'on appelle des ceintures maraîchères. Donc les maraîchers étaient installés vraiment autour de la ville. Et donc c'est des terres qui ont été cultivées pendant des années, des siècles, des décennies. Enfin, je ne dis pas tout à fait dans l'ordre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est des terres qui ont été extrêmement bien enrichies, bien cultivées, enfin qui sont de très bonnes terres, quoi. Et malheureusement, maintenant, dans la folie de notre siècle, de notre temps, où on n'a plus vraiment de rapport avec la terre, de rapport avec notre environnement, on s'en fiche. Toutes ces terres, on les bétonne, on y met des aéroports, des gares, des parkings géants, des centres commerciaux. Et voilà, toutes ces terres, finalement, elles sont détruites. Parce qu'après avoir mis des choses comme ça dessus, c'est sûr que ça ne sera plus des bonnes terres maraîchères et qu'on perd finalement tout le bénéfice de toutes ces générations qui avaient cultivé patiemment et avec attention et avec soin, ces terres. Et donc, dans le quartier des Lentillères, c'est une zone qui a été expropriée progressivement depuis 10 ou 15 ans à Dijon, puisque c'est un endroit où ils voulaient installer un tunnel ferroviaire pour créer une gare TGV. Bon, un truc comme ça. En tout cas, c'était en lien avec les trains et la SNCF. Et donc, voilà, ça fait des années qu'au petit à petit, ils exproprient quoi, tous les gens qui y habitent encore. Il reste peut-être encore une ou deux maisons qui sont habitées par des propriétaires privés qui sont qui n'ont pas encore été virés, mais il n'y en a presque plus. Et donc là, depuis 2010, je crois, il y a un collectif qui a commencé à squatter ces anciennes terres maraîchères et à les faire revivre. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça tout à fait génial parce que c'est quand même sur 6 hectares. Donc 6 hectares, c'est grand. Et sur ces 6 hectares, il y a à la fois des terres qui sont cultivées, on va dire, dans des grands potagers collectifs, mais qui sont super beaux, quoi, qui sont... Vraiment, je trouve qu'il y a un soin qui est apporté à ce que ça soit fleuri, à ce qu'il y ait des décorations, des installations et tout. C'est vraiment très chouette. Et à la fois aussi plein de petites parcelles individuelles, de familles, de gens qui viennent cultiver et qui sont très jolies aussi. Il y a quelques maisons qui sont encore debout, qui sont occupées, qui sont habitées. Il y a carrément une ferme maraîchère qui produit vraiment des légumes en grosse quantité avec une énorme serre et tout ça qui est... Qui produit là-bas. Il faut savoir que la mairie de Dijon a été extrêmement agressive sur ce lieu, sur ces luttes. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, sur les terres de cette ferme maraîchère, eh ben, apparemment, l'année dernière, ils sont venus avec un bulldozer et ils ont creusé des énormes trous comme des cratères de bombes, un peu comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont retourné tout le terrain à la pelle mécanique et ils ont exprès creusé d'énormes trous pour que ça soit complètement impraticable. Et ça veut dire que, mais genre sur 2 hectares peut-être, ils ont fait ça. Ça veut dire que bah, les gens qui vivent là-bas m'ont raconté qu'ils ont dû repayer quelqu'un avec une pelle mécanique pour reboucher ces trous parce qu'à la main, c'était un tel chantier que c'était, voilà, ça les avait découragés. Ils ont aussi construit un lieu qui s'appelle le Snack Friche, qui est très très sympa, un lieu, je crois que c'est fait que en matériaux de récup. J'ai notamment vu un truc génial, ils ont fabriqué une gouttière pour le toit de ce bâtiment, ils ont mis 2 planches en V comme ça, et à l'intérieur ils ont mis de la bâche plastique, et pim, ça fait une gouttière, c'est gratuit, voilà. Bon, juste un petit détail comme ça, mais pour dire que c'est assez astucieux. Il y a des gens qui vivent dans des caravanes, dans des petites cabanes. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et donc ça s'appelle le quartier des Lentillères à Dijon. C'est un lieu super dynamique où il y a aussi beaucoup de luttes et vachement en lien avec la subsistance, quoi. Voilà. Alors, on pourrait peut-être passer un petit bout de musique. Et comme ça, après, on pourrait parler d'une autre lutte plus proche de chez nous, plus proche du Diwa. Alors attention, c'était pas cette musique-là que je voulais mettre. Je vais chercher quelque chose. Séverine, peux-tu dire, peux-tu parler ? Parce qu'on va plus m'entendre.
Ah oui. Eh ben, je sais pas quoi dire parce que je suis pas lancée encore sur mon sujet. Alors du coup,
c'est allez, bon c'est bon. Merci. Je viens ton secours et je mets quelque chose.
Наши ярные герои. Небушки и плачут. Девушкам сегодня грустно. Эх, милый, в армию уехал. Эх, да, милый, в армию уехал.
D'entendre un peu de musique russe. Voilà, je sais pas quel était le titre de cette chanson, mais ce sont les joies du MP3. On a des musiques et on sait pas ce que c'est, d'où ça vient, on a plus de CD, on ne sait plus, mais la musique est quand même jolie.
Voilà.
Alors, Séverine, toi, tu as fait le déplacement ce soir pour nous parler d'une lutte qui est en cours contre un méga projet.
Voilà.
Un méga
ouais.
projet.
Bah, c'est un projet ouais, qui a lieu pas très loin d'ici. J'ai fait le déplacement pour venir ce soir, mais en fait j'ai fait aussi le déplacement lundi matin pour aller parce qu'il y avait une petite, enfin il y avait une manifestation sur les lieux de ce projet. Donc alors ce projet c'est la construction d'un center park.
Qu'est-ce que c'est un center
alors,
park?
Un center park, c'est un merveilleux endroit où on peut venir se reposer avec toute sa famille. L'avantage, c'est qu'on pose sa voiture à l'entrée et qu'ensuite, on est dans un univers merveilleux de déplacement à pied, de vélo. On loue un cottage dans lequel on peut séjourner. Et on bénéficie d'un merveilleux endroit aussi qui s'appelle l'Aquamondo. Mais voilà, je détaillerai peut-être plus tard. Center Park, c'est un concept néerlandais en fait, qui a été créé, je sais pas, dans les, enfin voilà, qui a été créé en 68.
Ah oui, c'est quand même ancien.
Ouais, c'est assez ancien. En fait, au-dessus de ça, maintenant, il y a un groupe qui s'appelle Pierre et Vacances. Donc, c'est un groupe assez connu. Son créateur, son chef, il s'appelle Gérard Brémond. Voilà, donc c'est un grand lobbyiste, un grand patron, à tel point que dans les couloirs de l'Assemblée, en fait, il y a une loi qui permet des défiscalisations sur des achats immobiliers et on l'appelle la loi Brémond. Donc c'est pour dire
parce qu'il n'est pas représentant rien du tout,
il est juste
et la
lobbyiste.
Loi elle porte son nom,
non elle porte pas son nom, elle porte son nom dans les couloirs
informellement,
quoi. Voilà, c'est ça. Donc donc en fait Pierre et Vacances, lui dès le début, ça, cette société, son créneau en fait, c'est de proposer à la vente des résidences de vacances qui sont je suis pas super spécialiste de Pierre et Vacances, mais en gros vous achetez une résidence de vacances et ensuite vous avez le droit d'y aller quelques semaines et le reste du temps c'est loué. Ou alors, je sais qu'on peut aussi acheter éventuellement des résidences de vacances à plusieurs. Et du coup, on achète en fait des temps de vacances. Voilà.
Ça s'appelle le timesharing.
Voilà.
En américain. Et je me souviens que déjà dans les années 90, on en parlait et que ça faisait plein d'arnaques.
Ouais. Bah, surtout qu'en 79, parce que j'ai fait un peu des recherches là, en 79, il y a un nouveau concept qui s'appelle la nouvelle propriété.
Et c'est donc une formule qui permet d'accéder à la pleine propriété avec vraiment peu, avec un investissement réduit, grâce à la récupération de la TVA et le prépaiement des loyers. C'est-à-dire que la personne qui vous vend le bien, donc Pierre et Vacances, s'engage à louer votre bien sur une certaine durée, pas éternellement.
Et c'est quoi la récupération de la TVA? C'est-à-dire qui récupère quoi?
Eh bien, c'est l'investisseur.
Donc la personne qui achète la résidence de vacances,
voilà,
elle ne paye pas la TVA.
Voilà. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc voilà, Pierre et Vacances, eux, ils sont sur ce principe-là. Center Park et Pierre et Vacances, on va dire qu'ils ont deux types de clients, en fait. Ils ont au niveau des investisseurs, c'est-à-dire que y a les personnes qui vont acheter les cottages. Et donc ils vont financer les cottages, les acheter, en profiter. Et ensuite, il y a les gens qui viennent dans ces center parks pour des séjours courts, voilà, qui louent pour des séjours courts ou un peu plus longs, enfin, genre une semaine. Au niveau, en fait, Pierre et Vacances ne fait quasiment aucun investissement dans ce genre de situation parce que toutes les infrastructures sont financées par l'État, donc ça veut dire les routes, ça veut dire l'assainissement. Donc quand même, pour faire une petite aparté, l'assainissement là, dans le cas du Bois des Avenirs, donc les Chambarans, donc Arroibon,
on peut peut-être du coup resituer, ouais, quand même géographiquement, parce
voilà,
que
ouais.
donc, lutte contre le Center Park, alors c'est où cette lutte?
Alors ça, c'est dans un massif qu'on appelle les Chambarans, donc c'est sur la commune de Roibon, c'est en Isère, c'est pas très loin d'ici. C'est en fait, si vous prenez Lyon, Valence, Grenoble, ça fait à peu près un triangle. Et au milieu, voilà, globalement au milieu, il y a ce massif de Chambarans avec la commune de Roibon. C'est à une centaine de kilomètres de dit.
C'est vers Saint-Marcellin par là?
Ouais, c'est pas très loin, c'est au-dessus de Saint-Marcellin, ouais. Voilà, ça c'est l'endroit. Donc ils veulent implanter ça dans le Bois des Avenirs. Donc c'est une région vraiment très rurale. En général, Pierre et Vacances s'attaquent à des... Il y a des exceptions, hein, mais ça, en général, ils visent des endroits où ils peuvent avoir peu d'opposition, donc c'est-à-dire une densité de population plutôt réduite. En général, des beaux endroits au niveau de l'environnement. Des endroits qui sont défavorisés. Par exemple, cette zone-là est en zone de montagne, ou je sais plus, enfin un truc qui fait qu'on a
des aides, des emplois.
Voilà, ouais. Voilà, en général, ils essayent de combiner ces choses-là, peu de chances d'avoir de l'adversité et beaucoup de chances d'avoir des aides de l'État.
Mais alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'ils ont ce projet et qu'il y a des gens qui s'opposent, parce que moi, ça fait peut-être 10 ans que j'entends parler de ce projet de Center Park.
Ouais, ça fait un peu moins longtemps que ça, ça a démarré en 2007. En fait, okay. cet endroit, dans les Chambarans, c'est un endroit qui attise beaucoup de convoitises. Et voilà, c'est un endroit qui est quand même assez proche
des grandes villes,
de l'aéroport, de plein de trucs. Voilà, assez centré et en même temps, pas beaucoup peuplé. C'est un endroit vraiment, c'est le poumon vert, comme on dit souvent, le poumon vert de Rhône-Alpes, quoi. C'est vraiment un endroit particulier. Et du coup, voilà, le projet, il a commencé en 2007 et il a chassé un autre projet que la municipalité de Roibon avait d'abord envisagé et qui était un projet voulu par le préfet de l'Isère, un centre de stockage de déchets ultimes. Donc en fait, une décharge dans laquelle on vient entasser tout ce qu'on ne peut pas recycler.
C'est monstrueux.
Voilà. Donc il y avait eu ce projet, il y avait eu quand même une levée de bouclier assez importante. Et voilà, la municipalité de Roibon n'était pas contre, n'était pas pour, mais enfin voilà, elle était quand même... Bon. Et en 2007, elle a été contactée par Pierre et Vacances, qui avait voilà, étudié et vu que cet endroit correspondait bien à leurs
critères.
Et voilà, et à partir de ce moment-là, bon là, retournement de la mairie qui s'est opposé assez au projet de décharge et qui est parti sur le créneau de Pierre et Vacances, qui était enfin de Center Park, qui était pour elle vraiment merveilleux, quoi. Enfin,
c'est vrai que d'un certain point de vue, on peut se dire qu'à choisir entre les déchets ultimes,
voilà,
et le super parc qui va drainer plein de touristes et ramener plein de fric et faire une belle vitrine écolo, loisirs et tout ça, c'est vrai qu'on peut comprendre que ça, ouais, les ait un petit peu excités.
Tout à fait. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que donc au moment, ça a été un argument assez exploité au moment du Center Park, de dire... voilà, un peu ce que tu viens de dire, tout ça. Je ne sais plus qui était venu, mais quelqu'un d'important du Center Park était venu à Roibon faire tout un speech et tout. Et à la question... Enfin, en gros, je ne me rappelle plus, mais en gros, il a dit ben, que de toute façon, la décharge... Parce que ce n'était pas tout à fait au même endroit. Et que c'était même... Voilà, c'est même quand même assez... C'est toujours sur la commune de Roibon, mais c'est assez éloigné, les deux sites, finalement. Et voilà, il a dit clairement que... Bah pour lui, c'était pas spécialement incompatible, en fait. Qui est la décharge d'un côté et le Center Park de l'autre. Donc,
C'est vrai qu'on est dans un monde globalisé et il faut que les différents éléments cohabitent, puisque,
voilà,
puisque les gens produisant des déchets ultimes de par leur existence, ils doivent bien supporter la coexistence de ces déchets ultimes avec... avec leur besoin de prendre l'air, quoi. C'est un peu normal.
En tout cas, voilà. Bon, pour l'instant, c'est vrai que le CSDU, c'est vraiment quelque chose qui est enterré, mais...
C'est le cas de le dire.
Voilà. Mais bon, c'est pas du tout... voilà, le fait que s'il y a un Center Park, ça fermera pas forcément la porte au fait qu'il y ait aussi une décharge de l'autre côté, quoi.
Magnifique. Et donc, lundi dernier, que s'est-il passé ? Pourquoi lundi dernier
Avant de te répondre, je préfère en fait revenir sur...
Pierre et vacances.
Non, sur l'historique. Pourquoi lundi dernier? Mais c'est parce que donc, en 2007, il y a eu cette arrivée de ce projet. Donc la commune de Roibon était vraiment enthousiaste. Il y a eu assez rapidement, mais quand même au début de façon un peu... il n'y a pas eu énormément de gens au début qui ont commencé à dire non, c'est peut-être pas si bien que ça. Donc il y a des gens qui ont commencé à se réunir. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Pour les Chambarans sans Center Park et qui a commencé à lutter sur le point, enfin voilà, qui a commencé à lutter surtout pour retarder les travaux et donc sur le plan juridique. Voilà. Et qui ce qui a créé aussi des assez rapidement des dissensions au sein de l'association, voilà, parce que c'est vrai que voilà, eux ils luttent sur un point extrêmement, enfin d'une manière en tout cas très très légaliste, très procédurière, très et donc voilà, quand même on peut pas leur enlever le fait que tout ça a quand même vachement bien retardé. Donc ils ont contesté le PLU parce que Roibon avait fait un très joli PLU pour dire qu'il fallait surtout pas pour respecter l'environnement, qu'il fallait surtout pas que le village s'étale, qu'il fallait, voilà, donc personne n'a le droit trop de construire à moins qu'il y ait trois maisons aux alentours, enfin un truc assez drastique. Et puis là, il y a eu le projet du Center Park qui projette de construire 1000 maisons en plein milieu de la nature. Donc là, hop, mince, plus possible, donc révision du PLU simplifié. Donc voilà, l'association attaque là-dessus, elle a attaqué sur le permis de construire, elle a attaqué sur le permis de défrichement. Tout ça, il me semble qu'à chaque fois, ils ont... pour le PLU, je crois qu'ils ont gagné, mais que donc, du coup, Roibon a refait un PLU. Enfin, voilà. Et tout ça, ça nous a amené petit à petit à maintenant. Ça, plus le fait qu'il y avait quand même... il y a quand même des lois qui régissent ce genre de situation. Et que du coup, il y avait des enquêtes publiques qui devaient être faites. Donc la dernière enquête publique, c'était la plus grosse. C'est c'est la loi sur l'eau. Parce que en fait, là où veut s'implanter le Center Park, c'est une zone humide. Et il y a des lois.
C'est comme on testait une zone humide.
Ouais, il y a des lois qui sont censées. Voilà. Donc moi, j'ai noté là 85% du site est en zone humide. Donc alors pour on n'a pas dit aussi un petit peu des chiffres quand même. Le Center Park là, et la surface totale, c'est-à-dire donc le Center Park, c'est fermé en fait. Voilà, donc la surface totale qui prend comme empreinte, c'est 200 hectares. Il y a 31 hectares de zone qui est imperméabilisée.
Tu veux dire où on met du béton dessus.
Voilà, où l'eau, quand il va pleuvoir, l'eau ne pénétrera plus dans la terre, mais hop, filera et s'accumulera. Et on peut parler aussi de tout ce que ça va faire après. Il y a aussi un truc qui est assez énorme. Bon, donc 200 hectares, 31 hectares d'imperméabilisation, 1000 cottages. Je crois que c'est vraiment un des plus gros projets de Center Park. 1000 cottages, c'est vraiment un gros Center Park quand même. Et il y a donc une zone de loisirs collectifs qui représente 3,6 hectares, dont ce fameux Aquamondo, qui est donc une espèce de bulle tropicale. Là, ça va faire 9000 mètres cubes d'eau, qui sera maintenue à 29 degrés en permanence. Voilà. Sachant que c'est quand même... c'est les chambarans, c'est des terres qui sont appelées parfois les terres froides. Et voilà, c'est un endroit où il ne fait pas du tout chaud l'hiver.
Tu veux dire que ça va consommer beaucoup d'énergie.
Énormément d'énergie, mais de l'énergie super propre. Puisque ça sera sans doute chauffé avec des merveilleux équipements au bois, à bois ou je ne sais quel.
Mais l'eau, elle va être un peu chlorée quand même.
L'eau, de toute manière, elle va forcément être traitée, hein, parce que cette température-là. Forcément, l'eau, elle est traitée. Et ensuite, cette eau, forcément, je crois que c'est deux fois par an, en fait, les bassins sont vidés.
Mais tu veux dire que sinon, pendant 6 mois, c'est la même eau et les gens, ils trempent tous dans cette
eau. Oh, mais il doit y avoir des merveilleux filtres. De toute façon, tout est merveilleux chez Center Park. Je crois qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais donc, voilà, quand même, deux fois par an, cet Aquamondo, il est vidé. Alors, pour avoir lu le dossier sur l'eau... il y a deux bassins ensuite d'amortissement, on va dire, parce qu'ensuite toute cette eau, elle est injectée dans ce qui s'appelle à ce moment-là, à cet endroit-là, le rue du Grand Julin, le ruisseau du Grand Julin, et qui devient ensuite l'air basse. Donc l'air basse, je pense qu'il y a des gens par ici qui connaissent, parce que ça donne son nom à pas mal de villages par ici. Et d'ailleurs, c'est une rivière qui crée pas mal d'inondations lors de pluies importantes, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Enfin, il y a vraiment des... Et donc voilà, cette merveilleuse bulle va être vidée deux fois par an. Alors bon, soi-disant que les produits auront disparu parce qu'on aura mis des filtres, parce qu'on aura fait des bassins de décantation, enfin voilà.
Tu disais 9000 mètres cubes.
Voilà, donc voilà, faut imaginer ce que ça représente pour le ruisseau du Grand Julin qui en était quasiment... est vraiment quasiment sec, au niveau de la différence de débit, c'est énorme, quoi, c'est destructeur au possible.
Maxi destruction.
Et du coup, il y avait quand même une enquête publique, loi sur l'eau, pour destruction de zones humides, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement, donc il y a des procédés de compensation... on doit trouver ou fabriquer ou je ne sais plus quoi, des zones humides équivalentes. Donc fabriquer une zone humide, c'est impossible, on le sait. Mais bon.
C'est merveilleux, on doit recréer des espaces, les espaces qu'on détruit. On est dans un monde vraiment assez, comment dire ça, détraqué.
Et du coup, cette enquête sur la loi sur l'eau, il y a eu un avis unanime et défavorable des trois commissaires enquêteurs. Qui ont quand même trouvé 12 raisons majeures de ne pas faire ce projet, avec quand même des remarques très, enfin avec des choses très graves, quoi. C'était, enfin on peut la lire, hein, l'enquête sur l'eau, c'est quand même voilà, c'est, ils parlent d'estimations minimisées, bâclées, donc voilà, un avis défavorable des commissaires. Mais bon, comme on sait, les enquêtes publiques de ce genre ne sont que consultatives. Et donc voilà, c'est juste un avis. Après, le préfet, il décide s'il le suit ou pas. Et bon, comme on s'y attendait, le préfet a décidé de passer outre l'avis des commissaires enquêteurs et a signé, là, ces derniers jours... une autorisation de destruction des espèces protégées. Et donc, dans la foulée, quelques jours après, il y a eu tout un petit truc, une petite mise en scène où le maire de Roibon, le nouveau maire, puisqu'en fait, c'est pas le maire qui était là quand le projet s'est créé, a vendu la terre des, le domaine des Avenières à Pierre et Vacances.
200 hectares.
Voilà, 200 hectares. Donc là aussi, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de scandales d'ordre financier dans cette affaire. Et par exemple, là, il y en a un qui est que, en fait, Roibon vend à Pierre et Vacances 200 hectares
au prix de la terre agricole.
Au prix de la terre agricole.
C'est
et
merveilleux.
Voilà, ça va devenir une terre constructible. Donc voilà.
La question subsidiaire étant combien le maire a touché personnellement pour toute cette histoire.
Je crois même pas. Je crois que.
Tu veux dire qu'il fait sa part idéale pour sa commune.
Ouais, pas. Non, je veux pas insulter le maire, donc je dirais pas pourquoi je pense qu'il fait ça, mais je pense que c'est plus, une espèce de croyance, d'ignorance, de.
D'accord, mais tu penses qu'il n'y a pas forcément d'intérêt financier directement pour
ben,
le maire.
Alors il y a un intérêt financier, c'est que quand même le maire qui était donc en place quand tout ça s'est créé. Donc c'est un banquier, c'est quelqu'un qui est dans un processus comme ça de.
Petite question aussi, il y a combien d'habitants sur la commune de Roibon actuellement?
Je crois qu'il y en a, je crois qu'on doit être peut-être, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 5000, quelque chose comme ça.
Ah ouais, c'est vraiment une petite commune. Ouais.
Assez étendue, mais une petite commune, ouais. Et donc le parce que quand Pierre et Vacances arrivent dans des endroits comme ça, il a beaucoup d'exigences en fait. Il y a beaucoup de tapis qu'il faut dérouler devant lui, quoi. Et donc je me rappelle plus si c'est pour ça ou si c'est d'initiative personnelle, mais en fait la mairie je me rappelle plus, mais en tout cas elle s'est endettée énormément. Et en fait là il y a un taux d'endettement sur chaque tête sur chaque habitant de la commune qui est vraiment impressionnant, quoi. Et si le Center Park se fait pas, effectivement, je sais pas comment ils vont s'en sortir.
Tu veux dire que ça va être la faillite de Roibon?
Peut-être.
Donc c'est comme, on va dire, une histoire à suspense. Puisque donc maintenant, d'un coup, ça s'est débloqué, on va dire, au niveau des rouages administratifs.
Voilà, en tout cas, là, pour l'instant... Voilà, les attaques en justice, en tout cas cette première phase, ont plutôt échoué ou réussi, mais en fait voilà, après il y a eu des
contre-attaques.
Voilà, des contre-attaques. Au niveau de voilà, c'est vrai que là maintenant il y a plus rien qui empêche, a priori, mais je suis même pas sûre de ça, Pierre et Vacances de démarrer les travaux, bien que normalement il y a des histoires de compensation et que je sais qu'ils avaient du mal à trouver des zones humides pour compenser parce que voilà, c'est pas...
Ça se crée pas d'un coup de voilà. Baguette magique.
Voilà, donc là, j'ai vu un petit peu sur les journaux, tout ça, il y a une propagande qui dit que, aïe, les premiers coups de pelle ont retenti et qu'aïe, les travaux sont en cours, ce qui n'est pas vrai, en fait. Lundi, justement, donc...
Alors,
voilà.
Que s'est-il passé lundi? Alors, donc, qui lundi... appelait à quoi?
Voilà. Alors c'est cette fameuse association principalement, et puis des personnes aussi.
Donc pour des Chambarans.
Pour les Chambarans sans Center Park, ouais.
Qui appelait à une manifestation.
Qui appelait à venir sur le site, puisque donc est annoncé partout suite à la vente de ce terrain que les travaux allaient commencer lundi 20, voilà. Donc ou lundi 18, je sais plus. Enfin lundi dernier, ils appelaient à venir sur le site à partir de dès 8h30 pour. Alors c'est pas vraiment pour contrecarrer les travaux, parce qu'ils sont pas trop dans ce type de lutte quand même. Ils sont pas trop à se mettre devant devant les pelleteuses et voilà. Mais par contre, il y avait à peu près 200 personnes. L'idée c'était de se bâillonner, de mettre un scotch dans la bouche pour symboliser. L'absence de dialogue, enfin l'absence de démocratie, on va dire. Et donc voilà, ils ont convié France 3, enfin tous les journaux, voilà, ils sont plutôt bons en communication. Et voilà. Alors quand il y a le président de l'association, là, Stéphane Perron, qui a commencé à faire un discours, et en même temps, moi, je commençais à entendre des tronçonneuses, tout ça. Bon, il s'avérait après, c'était pas des tronçonneuses en fait. Après, on est allé voir quelques-uns parce qu'ils, voilà, ils sont très, ils voulaient pas qu'on rentre en fait dans le domaine privé de Center Park. Qui est virtuellement le domaine de Center Park,
puisqu'ils l'ont acheté.
Voilà, puisqu'on l'a acheté. Sachant que quand même, voilà, toutes les forêts à peu près en France étant privées, si on se met à aller que sur le domaine public, ça va être très réduit, surtout si, tout comme la commune de Roibon, ils commencent à aller vendre à tour de bras, quoi. Donc voilà, quand même, il y a quelques personnes qui n'ont pas écouté cette directive. Et voilà, on est allé voir un peu ce qui se passait. Et voilà, il y avait une entreprise locale qui, vaguement, avec des débroussailleuses, en fait, je sais pas, ils nettoyaient le bord du chemin, ils plantaient des poteaux, je pense qu'ils commencent à faire les repérages, tout ça. Mais il y avait déjà eu... Il y avait déjà eu ce type de procédé, en fait, il y a au moins 5 ou 6 ans, quand voilà, il y avait eu « Ah, yeah, cette fois, Roibon a signé le permis de construire, les travaux démarrent ». Effectivement, ça s'était vachement excité, tout ça, mais c'était pas vrai, en fait.
C'était du bluff.
Voilà. Alors là, donc, il y avait une petite entreprise locale qui débroussaillait, on est allé leur parler, et le monsieur nous a gentiment expliqué que là, ils étaient en train d'enlever des espèces invasives, donc des plantes... des plantes locales, hein, donc enlever des espèces invasives pour ensuite pouvoir remettre de la prairie. Donc voilà, c'était du foutage de gueule clair et net. C'est assez drôle, mais et donc voilà, c'est pas vrai, les travaux ils ont pas du tout commencé. Voilà. Après, la suite, je sais pas quoi, ça continue.
Alors, qu'est-ce qui continue ? Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a un collectif sur place qui s'organise de manière un peu plus offensive ? Est-ce que...
Ben, non, moi, je pense que ça serait bien.
Okay, en fait, là... Pour l'instant,
la seule lutte véritable, c'est celle menée par cette association, qui est certes louable, mais qui n'est pas du tout dans ce genre de lutte, quoi. Donc, Bon, là, dans le discours, il disait que voilà, quand tout ça serait, enfin, quand tous les recours seraient finis, s'il le fallait, voilà, on lutterait physiquement, on viendrait sur place, tout ça. Mais je suis pas sûre que quelque chose, je pense que, ce type de lutte-là, je pense pas qu'elle viendra forcément de ce côté-là. Voilà.
Donc, d'accord.
Je pense qu'il faut la créer.
Ok, donc c'est un appel hein, c'est qui un est appel. Lancé sur les ondes de RDWA, même si elles sont numériques, on va les appeler quand même les ondes. Et on peut souhaiter que cet appel sera entendu, parce que c'est vrai que voilà, hein, les terres encore un petit peu sauvages, un peu préservées, sont attaquées de toutes parts par des choses affreuses.
Puis avec des procédés assez scandaleux, tant détournement de l'argent public que de toute manière ce que ça va, enfin là voilà, on parle d'un endroit où il y a strictement personne et tout d'un coup il va y avoir 5000 personnes, alors je sais plus, c'est un 1000 cottage, donc du coup je crois que c'est 5000 personnes par semaine, parce qu'il faut voir, c'est des séjours courts, donc les gens viennent pour 2-3 jours, ils repartent. Donc les infrastructures, les routes, c'est pas du tout...
Ça va circuler un maximum.
Voilà, sur des routes, moi cette route, je la connais très très bien. Et il y a toute une partie où il y a des virages et une voiture et un camion se croisent pas, quoi. Donc, et ils veulent, apparemment, ils voudraient refaire cette route tout en conservant son caractère...
esthétique.
Oui, bucolique ou je sais plus quoi. Et puis il y a plein de, par exemple l'eau, ils la prennent sur un bassin versant qui est dans la plaine de la Bièvre, donc des endroits où il y a en plus des restrictions d'eau l'été, et ils la rebalancent de l'autre côté dans un autre bassin, sur un autre bassin versant.
Donc ils vont complètement déséquilibrer les équilibres, voilà, qui existent.
Et aussi par exemple au niveau de l'assainissement, ils font les eaux usées, ils les trimballent sur 17 km, je crois. Ils vont mettre, voilà, ils vont créer des aqueducs ou je sais pas, enfin des tuyaux quoi pour emmener l'eau sur 17 km à une station d'épuration. Enfin, y a plein de choses comme ça qui sont vraiment incroyables.
Eh ben, merci Séverine d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces explications assez claires, je trouve, sur ce qui se joue pas très loin d'ici, pas très loin du Diwa. Je pense que ça va être un sujet à suivre, hein, qu'on va certainement reparler sur cette radio et sans doute dans cette émission Feu de tout bois. Et puis si vous aimez la bande dessinée et si vous avez envie d'avoir des idées d'action pour vous inspirer sur comment lutter contre un Center Park, eh bien, je vous conseillerais une bande dessinée qui s'appelle Le Domaine des Dieux, qui est un volume d'Astérix et qui raconte une histoire un peu similaire, bon, qui se passe 2000 ans avant nous, mais où finalement c'est un petit peu le même problème. Et nos chers héros, pas toujours très fins, hein, mais quand même des fois un peu drôles, Astérix et Obélix et Idéfix, en leur temps, avaient trouvé déjà des manières de résister à ce genre de choses abominables.
Et alors, je pourrais juste donner les deux endroits, enfin les deux blogs, quoi. Il y a donc là, il y a PSCSP, donc pour les chambances en Center Park, pscsp.org. Donc ça, c'est l'association, voilà. Et il y a un autre blog qui est intéressant, donc c'est quelques opposants à Center Park, mais leur blog s'appelle Chambarans, donc chambarans.unblog.fr. Alors il y a beaucoup d'informations, c'est un peu fouillis, mais voilà.
Et ben on mettra tout ça sur le site sur la page de Feu de tout bois.
Merci.
Allez, on s'écoute un peu de Philippe Glass.
C'était
quelle est l'odeur de votre vagin? Comment vous pourriez décrire l'odeur de votre sexe, de votre zézette, de votre fouf, de votre
chatte,
foufouille?
L'odeur,
comment vous la décririez?
Un parfum doux, un peu acide, avec une arrière-odeur qui ressemble à rien d'autre.
Ça dépend depuis combien de temps j'ai pas changé ma culotte, mais j'aime souvent l'odeur.
Une odeur forte, âpre. J'ai souvent peur que d'autres que moi la sentent. Alors je serre les jambes.
Une odeur que j'aime sentir.
Le fer, m'a-t-elle dit.
Ça sent un peu comme le pain, parfois comme le levain. L'écume, la carotte. Allez, pour le fun, la franchipane.
La péricube, basilic, tomate.
La pomme de terre. Crue ou cuite?
C'est pas la même odeur, ouais.
Ah non.
Ouais.
Moi je dirais crue.
Moi je dirais crue.
Je pense aussi que ça va être crue.
Ton vagin, il sent le monde.
Le monde?
Ah, ça sent le monde.
la mer, l'écume et les étoiles.
Alors ça, ce qu'on vient d'entendre, c'était un petit extrait d'un super chouette travail qui a été fait il y a plusieurs années déjà par, je pense en partie, l'équipe de l'émission de radio Dégenrée de Grenoble. Et c'est un travail à partir des monologues du vagin, mais elles l'ont renommé « Monologue de ma touche ». Voilà. Et donc, c'est un double CD. C'est un super bel objet parce que ça a été sérigraphié sur du tissu. Ensuite, ça a été cousu pour faire une pochette comme ça des deux CD. Et c'est tous des textes qui sont lus pour la radio avec des bruitages et tout ça sur le thème du vagin et du corps et du rapport au corps. J'ai envie de vous en passer comme ça de temps en temps quelques-uns parce que c'est vrai que c'est pas des choses dont on a l'habitude de parler, surtout pas comme ça à la radio, voilà. Et en fait, je pense que le fait de rendre super tabou ces sujets, ça participe finalement à l'oppression des femmes. Voilà, c'est dit. Et il nous reste plus beaucoup de temps là, il nous reste 10 minutes, mais j'ai envie de parler d'un livre que je viens de lire et qui est vraiment en lien avec ce sujet, puisque c'est un bouquin qui s'intitule « Je suis interdite ». C'est un roman écrit par Anouk Markovitz. Je pense que c'est une femme qui vit aux États-Unis. En tout cas, ce roman a été écrit en anglais états-unien et il a été traduit en français. Il a été traduit en 2013 et il était écrit en 2012, donc c'est assez récent. Et en fait, ce roman, il parle de la vie des femmes dans le monde des juifs hassidiques. Parce que vous savez que beaucoup de religions sont quand même assez, assez oppressives et pas très cool avec les femmes. On entend souvent des trucs sur les musulmans en disant « Ah, les musulmans, ils sont pas bien avec les femmes. » Je pense que si on parlait des chrétiens ou ici des juifs, c'est tout aussi trash pour les femmes. Et c'est vrai que moi, j'ignorais complètement ce que je connaissais du monde juif. C'était un peu les juifs, on va dire, je sais pas comment dire ça, mais peut-être les juifs un peu progressistes, quoi, si on peut se permettre de parler de ça comme ça. Et c'est une histoire qui est vraiment en lien avec l'Holocauste, quoi, hein, l'extermination des Juifs dans l'est de l'Europe. Et c'est une histoire qui parle de la rencontre entre deux enfants dont leurs familles ont été massacrées par la garde de fer roumaine et une autre petite fille où ses parents aussi ont été assassinés devant ses yeux en 1939. Qui réussissent à survivre, à s'enfuir. Le garçon, il est recueilli par une paysanne roumaine qui était un peu femme, on va dire, domestique chez ses parents et qui le prend comme si c'était son fils, quoi, qui le baptise, qui le convertit à la religion catholique et qui l'élève comme son fils. Et ensuite, cet enfant, il est récupéré à l'âge de 12 ans par un étudiant religieux. Qui dit un enfant juif ne peut pas rester comme ça à vivre comme un paysan roumain. Et en plus, c'est le fils d'un homme qui était très réputé dans le milieu de, on va dire, des commentaires de la Torah et tout ça, donc il faut qu'il retourne vivre avec les gens de son milieu. Et en fait, on comprend que le grand rabbin, qui s'appelle le Rebbe, qui était un peu l'homme de religion, l'homme de loi le plus respecté de ce coin-là. Lui, il a réussi à sauver, en fait. Il a réussi à sauver sa vie de l'Holocauste. Et il est parti vivre aux États-Unis, où il a reconstitué, quelque part à côté de New York, dans la ville de New York, dans un quartier juif qui s'appelle Williamsburg. Il a réussi à reconstituer avec d'autres personnes qui ont échappé à l'Holocauste, vraiment leur monde, où ils parlent toujours en yiddish et où ils pratiquent ils continuent à pratiquer leur religion de manière très, très, très stricte. Et donc, dans ce livre, ce qui est super, c'est que l'histoire est vraiment centrée sur deux jeunes femmes, qui sont d'abord des petites filles et puis qui grandissent, et sur comment Finalement, la religion juive impose des choses très très restrictives en matière de rapport au corps, de rapport au monde, et comment ces petites filles, elles vivent dans un monde vraiment très fermé par rapport au reste des gens qui ne sont pas juifs. Donc en fait, après la guerre, ils vont vivre à Paris. Et elle raconte vraiment comment ils n'ont aucun contact avec les autres gens, ils n'ont pas le droit de se mêler avec les autres enfants, avec les autres personnes. Et il y a notamment une anecdote qui est racontée quand elles ont 8-9 ans, elles sont au parc du Luxembourg à Paris, et il y a une de leurs copines de l'école, donc elles sont quand même dans une école juive, mais c'est une école entre guillemets sioniste, et dans ce livre on comprend que les sionistes, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'État d'Israël, sont considérés vraiment comme des ennemis par les juifs hassidiques, quoi, qui considèrent que c'est une déviance par rapport à la loi, qu'on ne peut pas retourner dans la terre promise tant que le Messie n'est pas revenu, et donc qui les considèrent vraiment comme quasiment comme des impies, comme des mécréants. Et donc elle croise leur copine de classe avec son vélo et elles se disent chouette, chouette. Et la copine leur dit allez-y, vous pouvez faire un tour de vélo. Donc elles sont toutes contentes, elles commencent à rouler à vélo et elles s'amusent super trop bien. Et là, il y a leur gouvernante qui arrive, qui commence à hurler en disant c'est le Shabbat, vous n'avez pas du tout le droit de faire ça. Donc c'est la panique, elles tombent du vélo, elles doivent abandonner le vélo, elles n'ont même plus le droit de toucher le vélo pour le ramener à leur copine. Et donc elles sont ramenées en pleurs à la maison où elles sont battues par le père à coups de ceinture qui leur dit le Shabbat, on n'a pas le droit de toucher des objets roulants, c'est interdit. Et donc en fait vraiment que ça jette le discrédit sur l'honneur de la famille si elles font ça. Donc enfin voilà, c'est une anecdote, un exemple, mais en fait tout au long de ce livre on suit vraiment l'évolution intérieure de ces petites filles, quoi, comment se construit leur rapport au monde. Il y a une autre anecdote qui est racontée plus loin, c'est dans une autre génération, mais bon, ça traduit bien l'ambiance, des petites filles qui sont au jardin d'enfants, quoi, qui ont genre 5 ans, évidemment les écoles sont non mixtes puisque les petits-enfants ils peuvent surtout pas jouer ensemble entre garçons et filles, c'est très strict. Les garçons donc à 13 ans ils font leur bar mitzvah, et une fois qu'ils ont fait leur bar mitzvah, et ben les sœurs et les frères n'ont plus le droit de se toucher ni de s'embrasser, quoi. Donc c'est quand même très très, enfin il faut s'imaginer, hein, c'est vraiment très restrictif. Et donc là la maîtresse elle demande aux petites filles, alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et il y en a une qui dit, ah moi je voudrais être pompier avec un camion rouge. Et là la maîtresse elle fait des gros yeux, elle dit, pas du tout, c'est très 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 mal et tout. Et il y en a une autre qui dit, moi je sais, plus tard je veux être maman. Alors elle lui dit, ah bravo, c'est ça qu'il faut faire, c'est bien, c'est pour ça que vous êtes nés, c'est pour être des mamans. Et donc en fait dans ce livre on constate dans l'histoire de la mère de ces deux petites filles que en fait ces femmes juives de cette communauté hassidique, leur seul rôle dans la vie c'est de faire des enfants, d'être des pondeuses d'enfants. Donc on comprend aussi que toute la vie sexuelle des gens est extrêmement réglementée. Donc par exemple les hommes ont absolument pas le droit de se toucher le sexe, ils n'ont pas le droit d'avoir des éjaculations en dehors du moment où ils vont pénétrer leur femme. Mais c'est incroyable, hein, parce que donc il raconte vraiment comment un homme, s'il a une éjaculation nocturne, c'est carrément un drame, parce que c'est vraiment être impur aux yeux de la Torah, du règlement, donc c'est vraiment très poussé. Et la manière dont ils ont des relations sexuelles est extrêmement codifiée, donc c'est pas du tout, ils peuvent pas du tout se laisser aller à ce qu'ils veulent faire et tout. Non, non, ça suit des règles, les femmes elles doivent noter tous les jours du mois quand c'est qu'elles ont leurs règles et quand c'est que c'est fini et quand c'est qu'elles ont ci et ça. Et donc il y a que quelques jours dans le mois où elles ont droit d'avoir des relations sexuelles avec pénétration évidemment, puisqu'il y a que ça qui existe, avec leur mari. Donc en fait tout est organisé pour qu'elles soient fécondées tout le temps, quoi, en gros, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Elles sont obligées d'aller prendre des bains rituels avant d'avoir des relations sexuelles pour être déclarées cachères aux yeux de leur mari. Et donc c'est vraiment épouvantable parce que ces femmes, en gros, elles sont des pondeuses d'enfants, donc elles font plein 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 d'enfants. Et là on voit aussi dans ce roman l'histoire d'une femme où elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ça, c'est la catastrophe, quoi. C'est l'horreur totale, c'est le discrédit, c'est la honte, voilà. Et on se rend compte, comme il n'y a aucune échappatoire possible, et il y en a une, ben justement, une de ces deux petites filles qui va choisir la voie de la rébellion, et qui va carrément s'enfuir de chez elle, hein, à l'âge de 15 ou de 16 ans, parce que il y a aucune place, en fait, pour avoir une pensée individuelle, pour critiquer, pour... Non, c'est vraiment, il faut se plier totalement à tous les règlements, de manière hyper stricte, ou alors on est dégagé, et donc je suis interdite. C'est pas encore ça concerne pas encore cette fille là ça concerne autre chose que je vais pas avoir le temps de vous raconter parce que l'émission va bientôt s'achever, mais en tout cas cette fille qui décide de partir comme ça, eh ben elle reverra plus jamais ses parents de toute sa vie, et même sa copine d'enfance ne pourra plus jamais lui parler, parce que même si elle lui parle, elle va jeter le discrédit sur sa propre famille. Donc elle est complètement exclue de tout son milieu. Et le père dit, voilà, tu es celle dont on ne prononcera plus le nom, celle dont le nom doit être effacé, quoi. Donc, petite plongée dans la vie d'une communauté religieuse intégriste qui n'est pas dénoncée comme secte, puisque c'est une religion reconnue, donc on a le droit à faire tout ce qu'on veut quand on est une religion reconnue. Je vous rappelle les références de ce livre qui peut être emprunté à la médiathèque de Die, très bonne médiathèque. Donc le titre du livre c'est « Je suis interdite » et l'auteur s'appelle Anouk Markovitz, voilà. Donc on va vous souhaiter bonne soirée sur les ondes de RDIWA ou en faisant autre chose.
Oui, bonne soirée. Et juste, du coup, je fais juste un petit rappel pour venir nous retrouver le week-end du 1er et 2 novembre, notamment à l'espace social de Die, pour un genre de festival. Et j'ai pas trop le temps de développer, mais venez, ça va être chouette. On va se poser des questions, on va réfléchir ensemble autour de la question du genre. On va danser, on va bien manger. Et tout le programme, c'est sur ungenredefestival.wordpress.com. Et puis il y a des affiches,
un peu partout. Voilà, que vous pouvez voir un peu partout. Allez, on vous dit bonne soirée. Et à bientôt sur RDIWA.